Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur qui va et qui vient entre vos oreilles et qui se retient. Et mes movie stars sont...
Irina Ninova, la reine des podcasteuses et la podcasteuse des reines.
Et Philippe Zedbon, podcasteur...
Oui ?
Oui, ça vient à temps, podcasteur... pour dames.
Bravo, c'est dis donc. C'est pas laborieux, c'est pas laborieux du tout comme intro.
Tu veux qu'on la fasse ?
Ouais.
Allez. Allez.
Philippe Sedbon, podcasteur. Putain.
On dirait Marilyn Monroe, mais t'es ivre.
Podcasteur.
Pour dames.
Ouais, c'est pas très difficile, pour
toi. Philippe Sedbon, podcasteur pour dames.
Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Scarlett Johansson, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, certains plus que d'autres, pour cette plongée dans la filmographie et la vie de Scarlett Johansson, née en 1984, année immortalisée par George Orwell et son extraordinaire livre de SF prémonitoire, et année dominée au box-office par Marche à l'ombre et Les Ripoux, et Indiana Jones et le Temple maudit, le deuxième volet teinté de racisme de l'aventurier au fouet. Cette année voit également naître Paul Dano, le Riddler lui-même, une des bonnes choses du dernier Batman, et s'éteindre le grand singe blanc, Johnny, non pas Philippe, mais Johnny Weissmuller, inoubliable interprète du roi de la jungle, Tarzan. Aïe, aïe, aïe.
Ah, tu le fais bien.
Et maintenant, laissons sans plus tarder la parole non pas à Jane, mais à Irina, qui nous raconte les débuts de la grande Scarlett Johansson.
Oui, c'est moi qui va vous présenter cette magnifique actrice hollywoodienne. Donc accrochez-vous, nous partons à la découverte de la sensation cinématographique elle-même. Scarlett Ingrid Johansson et son frère jumeau Hunter, et oui, elle a un frère jumeau, aussi acteur, naissent tous les deux le 22 novembre 1984 à New York, dans le quartier de Manhattan. Carsten Olaf Johansson est papa de Scarlett, est un architecte originaire de Danemark, et sa maman, une productrice new-yorkaise, Melanie Sloan, d'origine juive ashkénaze, donc la famille Johansson, possède des origines diverses, des racines danoises, suédoises, polonaises, ce qui me fait plaisir aussi, parce que bon, ça me rappelle mes origines. Scarlett est cadette d'une fratrie de deux frères et une sœur. Mais la famille est très modeste, sa mère est une vraie passionnée de cinéma. Malheureusement pour la petite Scarlett, ses parents divorcent quand elle a 13 ans. Elle devient particulièrement proche de sa grand-mère maternelle, Dorothy Sloan, qu'elle considère aussi comme sa meilleure amie. Voilà, c'est déjà pendant son enfance que Scarlett s'entraîne à jouer devant le miroir. Elle essaye de pleurer parce qu'elle veut absolument être comme Judy Garland dans Le Chant de Missouri. Voilà, déjà, elle fait les débuts prometteurs. Et à l'âge de 7 ans, elle était anéantie quand son frère jumeau, est remarqué par un agent et il signe le contrat. Elle est complètement jalouse, donc elle décide plus tard de devenir actrice coûte que coûte. Et elle s'inscrit au Lee Strasberg Theatre et Film Institute et commence à auditionner pour des campagnes publicitaires, tout ça. Et mais elle s'en désintéresse assez rapidement parce qu'elle dit « je ne voulais pas promouvoir Wonderbra ». Elle se concentre sur le cinéma et sur le théâtre. Elle se produit pour la première fois sur scène dans la pièce off-Broadway Sofstry avec Ethan Hawke, pièce dans laquelle elle a tout simplement deux répliques. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'elle commence à étudier à la Professional Children's School, une institution privée pour les enfants d'acteurs et les enfants acteurs prometteurs de Manhattan. Alors là, elle a 9 ans et sa première apparition au cinéma dans le rôle de la petite fille de John Ritter dans la comédie fantastique L'Irrésistible Nord se produit en 1994. C'est un film américain réalisé par Rob Reiner.
Ouais.
Elle dit, lorsqu'elle était sur le plateau de tournage, qu'elle savait intuitivement ce qu'il fallait faire déjà. Scarlett obtient par la suite des rôles un peu secondaires. Par exemple, elle joue la fille de personnages de Sean Connery et Kate Capshaw dans le thriller Just Cause en 1995 de Arne Gleimtscher. Et alors, elle joue aussi un petit rôle d'une étudiante en art dans Ive Lucifer en 96. Mais sa vraie carrière cinématographique démarre vers l'âge de 9 ans, quand sa mère l'amène à des auditions. Et vers l'âge de 10-11 ans, Elle est auditionnée pour le rôle de Judy Shepard dans le film Jumanji, mais le rôle est attribué à Kirsten Dunst, malheureusement. Elle enchaîne ensuite des rôles sans se faire vraiment remarquer, mais c'est en 1998 qu'elle reçoit le Young Star Award, décerné par le magazine de Hollywood Reporter, pour son rôle de Grace dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. C'est un film produit et réalisé par Robert Redford et sort en 1998, d'après l'adaptation du roman du même nom de Nicholas Evans, publié en 1995. Elle joue le rôle de Grace McLean, une adolescente de 13 ans, complètement désespérée à l'idée de perdre son cheval.
Absolument, ce qui nous amène à Philippe, l'homme qui murmurait à l'oreille des chats, qui nous parle du premier gros film de Scarjo, donc un peu plus avant, comme on la surnomme à Hollywood, le film dont vient de nous parler, Irina, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, 1998.
Qui est un film de deux et avec Robert Redford, qui est un très joli sujet, et qui offrait à Scarlett Johansson, qui était encore très jeune, un rôle assez profond, puisque c'était pas seulement qu'elle avait peur de perdre son cheval,
ouais,
c'est qu'elle avait perdu une jambe.
Ouais.
Dans la chute d'un cheval qui avait...
Ah, elle était unijambiste dans le film ?
Oui, oui, elle a perdu une jambe et son cheval était à moitié destroy. Il était, enfin, tout le monde voulait l'achever, quoi, en gros.
Ouais, on achève bien les chevaux, tu sais.
Il est devenu fou, le cheval. Et donc, ils l'ont amené chez Redford, qui était la dernière chance,
ouais,
qui à la fois soignait le cheval, parce qu'il savait effectivement, il avait une approche surnaturelle avec les chevaux.
Ouais.
Et en soignant le cheval, il soignait la gamine.
D'accord.
Ce qui était un très beau sujet. Et Scarlett Johansson était étonnamment... profonde et sobre et pas du tout mignonne, pas cute ni rien, elle était vraiment mature et elle a fait beaucoup pour le succès du film, je pense.
Oui, à ce sujet, Robert Redford a dit qu'elle est 13 going on 30, c'est-à-dire qu'elle a 13 ans, mais elle a l'air d'en avoir 30, et effectivement elle fait montre d'une maturité étonnante à l'époque. Irina, en 2001, elle fait L'homme qui n'était pas là avec les frères Cohen, qu'elle retrouverait quelques années plus tard dans Ave César, dont nous parlerons plus tard dans l'émission. Tu l'as vu celui-là avec Billy Bob Thornton et James Gandolfini ?
Celui-là, non, je ne l'ai pas vu. Hein. Ouais. J'ai commencé à remarquer Scarlett, effectivement, à partir de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux.
Ouais.
Et évidemment, La jeune fille à la perle, dont on va parler tout à l'heure, j'espère.
C'est ça. Et Philippe, tu avais remarqué qu'elle avait un très joli sweater, un très joli pullover.
Elle avait un sweater Angora, très joli. Et je ne me souviens pas très bien du reste.
Bravo, tu as bien travaillé, je suis fier de toi. En 2001, elle fait Ghost World, qui est la première fois que moi je la remarque, puisque j'avais raté L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et elle est formidable, avec un Steve Buscemi et une Tora Birch, qui malheureusement disparaîtrait depuis, Tora. Elle montre aussi une maturité, et elle commence à montrer une certaine sensualité à l'époque, qui serait un petit peu sa marque de fabrique par la suite de sa carrière. Mm. 2002, tu as vu... Eight-Legged Freak, sur les araignées géantes.
Ah oui, fantastique. C'est un film pour les arachnophobes.
C'est pas pour moi, alors c'est bien que je l'ai pas vu.
Il y a que des araignées géantes.
Tu aimes les araignées ?
Je déteste
ça. C'est arachnophobe, c'est les gens qui n'aiment pas. Arachnophiles, ce sont les gens qui aiment.
Et elle était marrante, comme tout le reste du film. D'ailleurs, c'était très drôle. Il y avait David Arquette, je crois. Il y avait, je me souviens plus qui, mais en tout cas, elle était très marrante dedans.
Ouais. Irina, tu vas nous parler un petit peu de Scarlett en 2003. Dans Lost in Translation.
Alors, en 2003, Scarlett fait irruption à l'écran avec une performance remarquable, d'abord à côté de Bill Murray, dans Lost in Translation de Sofia Coppola.
Ouais.
Bon, après, elle va passer de côté de Colin Firth dans La jeune fille à la perle, dont je vais peut-être vous en parler aussi.
Ouais.
Lost in Translation, une histoire d'une jeune fille étudiante qui se retrouve donc à Tokyo et qui croise Bill Murray, complètement esselé aussi. Et c'est un espèce de dialogue... complètement fantasque, filmé magnifiquement par Sofia Coppola. Dialogue presque silencieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots dans ce film-là. Tout se passe par des regards, tout se passe par les attitudes.
Les non-dits, oui.
Par les non-dits, effectivement. Un film très bizarre que le public a accepté, en fait, finalement, je pense, parce que c'était un des premiers de Sofia aussi. C'est un film que j'ai beaucoup aimé.
Ouais.
Parce que l'image de film est déjà extraordinaire.
Magnifique.
Il y a les lumières de Tokyo qui nous amènent complètement en voyage. Et c'est vrai que c'est vraiment un film poème, je dirais.
C'est surtout, je trouve, moi, le seul film qui capture exactement ce que c'est que le dépaysement.
Ouais.
C'est-à-dire, moi, je me souviens, j'avais tourné un film comme réalisateur en Argentine et je me suis retrouvé dans un hôtel isolé à Buenos Aires. Et j'ai passé 15 jours de préparation sans personne. Je connaissais personne. Je parlais pas la langue. Sans Bill Murray. Mais j'étais Bill Murray. Et je me retrouvais des fois à cause du jet lag, tu vois, dans le bar de l'hôtel à 4 heures du matin. Je savais exactement ce que ressentait le personnage de Bill Murray.
C'est vrai, mais moi j'aime beaucoup les films d'hôtel en général, The Shining bien sûr, Danny. Mais j'aime beaucoup aussi Lost in Translation, elle a 17 ans à l'époque, et c'est un film, vous ne l'avez pas dit, qui est très autobiographique, puisque comme toi Philippe, elle suit son père Francis Ford en promotion au Japon, et elle se retrouve des journées entières, où je crois que c'était pas son père d'ailleurs, c'est le suivait, son mari à l'époque, qui était Spike Jonze, le formidable metteur en scène qu'on voit également dans la série de films Jackass, et avec qui Scarlett tournerait quelques années plus tard, Her, avec Joaquin Phoenix, dont nous parlerons plus tard dans l'émission. Mais donc, elle est très jeune, c'est presque une version moderne de Lolita, puisqu'elle a 17 ans, bien qu'il ne consomme pas l'acte, heureusement d'ailleurs. Mais il y a une histoire d'amour qui s'installe. C'est une étrange comédie romantique entre ce vieil acteur qui va faire des pubs et dont tu m'as dit, Philippe, qu'il était basé sur Charles Bronson.
Oui, c'est Bill Murray qui avait raconté cette anecdote assez aberrante quand même. C'est qu'il, lui, il cherchait une accroche pour savoir qu'est-ce qu'on peut ressentir. Il a appris que Charles Bronson avait joué une pub pour un produit japonais qui s'appelait Mandom.
Un parfum.
Et qui...
Où il fume la pipe torse nu.
C'est ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'était une pub japonaise financée par la firme japonaise. Et donc, il s'est imaginé que Charles Bronson s'est retrouvé dans un hôtel un jour en plein Japon, paumé, seul, etc. Alors que c'est absolument pas vrai, puisque les 7 spots publicitaires qu'avait tourné Bronson ont été tournés aux États-Unis.
C'est drôle.
Donc, il a fantasmé un truc qui n'a aucun rapport avec la réalité.
Irina, je voudrais que tu nous parles de La fille à la perle, justement, la même année.
Ah oui, c'est tout à fait à la même année, La jeune fille à la perle. Pareil, c'est un rôle d'une fille très très jeune.
Ouais.
C'est vraiment une histoire, peut-être un peu imaginée, de Vermeyer, qui remarque une jeune servante dans une famille avec laquelle elle est proche, et qui commence effectivement à la peindre, à lui demander de poser pour lui, etc. Et donc Scarlett joue ce personnage à merveille, parce que vraiment, quand on regarde le tableau de Vermeyer, elle ressemble beaucoup à ce personnage.
C'est une histoire d'amour ou pas, ou c'est simplement...
C'est une histoire d'amour platonique, parce qu'on voit que... On voit que les deux personnages sont attirés incroyablement.
C'est toujours un vieil homme avec cette femme. Hein.
Et... Vermeyer n'est pas très vieux.
C'est Colin Firth
c'est
qui joue
Firth
Vermeyer.
Qui joue à côté de Scarlett dans ce film.
Ouais.
Elle est très très jeune.
À
on
propos...
voit qu'elle a, elle joue pratiquement une fille de 14-15 ans.
Ouais.
Toute prêche, toute belle, toute innocente.
Ouais.
Et elle le fait magnifiquement bien. J'adore ce film parce que vraiment, il y a une lumière dans le film qui correspond parfaitement au tableau de Vermeyer,
ouais.
Comme si c'était lui qui avait fait ce film.
À propos de vieil homme et de jeune fille, elle rencontre Woody Allen en 2005.
Ah oui, quelle horreur.
Je voulais pas te dégoûter. Mais avec un excellent film qui est Match Point, qui est une espèce d'Alfred Hitchcock. Ouais. Ça fait partie des thrillers de Woody Allen.
Et là, vraie rencontre, parce qu'elle a quand même fait 3 films avec lui.
Ouais.
Et tous les 3 sont des jolis films. Et dans tous les 3, elle est remarquable.
C'est vrai.
D'ailleurs, elle est très copine avec Woody Allen. Elle a pris
encore
sa
maintenant
défense.
Ah oui.
Après sa défense. Ouais,
contrairement à d'autres acteurs et actrices qui se sont déminés après avoir travaillé avec lui.
Tout à fait. Ouais.
Mais tu sais qui elle remplace pour le rôle de Match Point ? C'était pas elle qui était pressentie au départ.
Je sais pas qui elle remplace, mais...
Steve Buscemi. Non,
oui,
non elle remplace Kate Winslet.
Winslet.
Mon idole.
L'idole de Philippe. Ah. Et en 2005, entre deux Woody Allen, donc, elle fait un film qui s'appelle The Island.
Je ne sais pas
si vous l'avez vu, celui-là.
Moi,
non
j'ai vu The Island.
Je l'ai vu.
Avec Ewan McGregor.
Ewan McGregor.
Ouais, c'était un film que je n'ai jamais revu, mais
je ne suis pas aidé avec vous deux, là, aujourd'hui. Non, c'est pas vrai.
Non, c'est un film que The Island, je l'ai vu, et c'est un film que, déjà, à l'époque, j'avais trouvé que c'était un peu pourri de CGI.
Ouais.
Il n'y avait que ça, quoi. Il y avait tout fond vert. C'était tout tourné sur fond vert.
C'était une histoire de clone réalisée par Michael Bay.
Ouais.
Et effectivement, ça n'a pas marché du tout. Et même s'il y avait des bonnes choses dedans, ça reste quand même un film qui est un petit peu en deçà pour tous les gens impliqués dans le film. Et elle enchaîne par Scoop en 2006, ce deuxième film avec Woody Allen, qui est celui où elle est avec Hugh Jackman.
Et où elle n'a jamais été meilleure, à mon avis.
Tu trouves ?
Que dans ça, elles sont fantastiques.
Irina, tu l'as vu ?
Ouais, je l'ai vu, mais j'ai très peu de souvenirs de ce film.
Elle a un très joli sweater.
Celui de Woody Allen qui m'a vraiment marqué avec elle, c'est effectivement Vicky Cristina Barcelona.
Ah bah voilà, on va y arriver. Ouais. Alors, parle-nous. Bah, vas-y, allons-y. Soyons fous.
Soyons fous. Donc là, elle est déjà habituelle de Woody pour travailler avec lui.
Ouais.
Et donc, elle est à côté de magnifique Penélope Cruz et Javier Bardem.
Ouais.
Et on voit de plus que sa chimie à l'écran, elle devient complètement électrique.
Ouais.
C'est un film qui est tourné en Espagne sur deux copines qui partent en voyage comme ça, presque en guinguette pour se distraire un petit peu et qui tombent sur ce personnage de Javier Bardem complètement irrésistible qui leur propose effectivement de s'amuser ensemble. Et voilà, tout ce qui en découle et tous les malheurs et tous les bonheurs qui en découlent. Ça devient carrément un film choral parce qu'on voit que les couples se forment, se déforment, vivent ensemble et ça matche très bien. C'est un film très très sensuel.
Ouais.
C'est un film très gay. J'ai une copine qui a écrit la musique pour ce film.
Ah bon, ouais.
Cette fameuse chanson de Vicky Cristina Barcelona qui s'appelle Giulia Talerani. J'étais au conservatoire avec elle, c'est elle qui chante cette chanson.
Tu peux nous la chanter?
Oui, si tu veux. La prochaine fois, je t'amènerai le truc. Donc voilà. Qu'est-ce qui vient après? Ah oui, bah écoute, tu nous as pas parlé.
Je voudrais terminer sur Woody Allen. C'est un peu la troisième muse de Woody Allen après Diane Keaton et Mia Farrow.
Oui, et ce qui est touchant, c'est qu'il n'a pas essayé de la faire ressembler aux autres.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il a toujours eu un type de femme et un type de personnage féminin.
Ouais.
Et là, avec elle, on dirait qu'il a été, il a été conquis.
Ouais.
Il a laissé être elle-même et se développer sous sa caméra. Et c'est touchant parce que c'est la première fois qu'il lâche prise un petit peu.
C'est vrai. Mais elle travaille beaucoup, hein, parce que 2006, trois films. Donc elle fait Scoop, Le Black Dahlia et Le Prestige avec Christopher Nolan, où elle fait l'assistante de Hugh Jackman, ces deux magiciens.
Elle a un très joli pull aussi.
Il se rappelle de rien.
Très joli corsage. Effectivement.
Et 2010, elle donne un autre tour à sa carrière. Après avoir fait plusieurs films indépendants, elle devient la veuve noire pour Marvel dans Iron Man 2 de Jon Favreau. Et c'est un rôle qui n'a pas été offert à elle au départ, comme Winslet avec le film Match Point. Tu sais qui devait faire la veuve noire ?
Emily Blunt.
Bravo.
Voilà. et en plus, elle ne s'arrête pas là. En 2012, elle reprend ce rôle avec panache dans Avengers. Elle continue à reconduire donc, ce personnage chez Marvel plusieurs fois. Donc,
elle est magnifique. C'est le personnage féminin des Avengers et de Marvel en général, qui sont plutôt axés sur les hommes, comme Kinopod, malheureusement. Et c'est vrai qu'elle elle amène une féminité et une physicalité vachement intéressante, parce qu'elle est la veuve noire qui est russe, tu sais.
Oui.
Ouais.
Oui, les veuves noires sont souvent les Russes. Parce que leurs maris ne peuvent pas leur survivre.
Tu parles en connaissance de cause, apparemment.
Exactement. Donc, effectivement, avec cet Avengers, même en 2012, elle décroche son étoile tant méritée sur Hollywood Walk of Fame. Ah,
formidable, tellement jeune.
Voilà,
c'est
une reconnaissance qui lui est décernée. Elle est très, très jeune. Elle est juste au début de sa carrière.
Ouais, qui est très, très méritée. Elle jouerait Janet Leigh dans Psychose.
À côté de Anthony
Dans le film Hitchcock, voilà, exactement, en 2012. Qu'est-ce que tu en as pensé, Philippe ?
Le film ?
Ouais.
J'aime bien le film.
Moi aussi, j'aime bien
le film. Ouais. Je déplore un tout petit peu Anthony Hopkins, parce qu'il ne lui ressemble absolument pas. Non, mais c'est vrai, parce qu'Hitchcock, c'est une silhouette et un visage tellement connu que soit tu faisais un sosie, soit tu le filmais tout le temps de dos. Mais avoir un mec qui est semi-ressemblant avec des prothèses et tout, moi j'ai eu un peu de mal avec ça.
Ceci dit, Hopkins avait réussi le coup avec Nixon dans le film d'Oliver Stone, où il ressemblait pas du tout à Nixon, mais il capturait l'esprit et l'essence du personnage.
Et là, pas trop.
Ouais.
D'autant qu'ils ont essayé un peu de sexualiser le personnage et sa femme, Alma, qui était jouée par Hélène Mirren, en leur donnant une sexualité. C'était pas du tout ce qu'on imaginait des personnages, donc c'est un peu dérangeant.
Ouais.
Par contre, je trouve que Scarlett Johansson était une Janet Leigh parfaite.
Ouais,
dommage qu'elle n'est pas beaucoup dans le film.
C'est vrai.
Il manque un petit peu d'elle dans le film.
Ouais. Et je trouve que le type qui joue Norman, Anthony Perkins, c'est pas terrible non plus. Il est pas mal, mais ça aurait été mieux. Ou enfin, Andrew Garfield, il était juste là aussi.
Pareil, on le voit quasiment pas.
Très peu aussi.
Qu'est-ce qui faisait Vera Miles déjà? Elle était bien aussi.
Ah, j'ai oublié.
Jessica Biel.
Jessica Biel, l'acteur maghrébin.
Jessica Biel.
Mais elle retourne au théâtre la même année, en 2012. Et en 2013, elle retrouve donc Spike Jonze pour Her, où elle fait simplement une voix, la voix de ce computer, de cette espèce de Siri ou d'Alexa dont Joaquin Phoenix tombe amoureux.
Et pourtant, c'est ironique, mais c'est pas faux, c'est un de ses meilleurs rôles.
Allez bien, moi c'est un film que j'aime un peu moins que la plupart des gens.
Ouais, mais non, je suis pas fan non plus.
Elle est formidable dedans.
Elle est formidable, c'est là qu'on commence vraiment à s'apercevoir de son immense talent de chanteuse, parce qu'elle sait manier cette
extraordinaire.
Voix.
J'ai regardé ses vidéos sur YouTube où elle chante Tom Waits.
Oui, elle a fait pratiquement une vraie carrière de chanteuse.
Ah, magnifique.
Elle a créé un groupe en 2015,
absolument,
un groupe à elle,
absolument.
Elle a même, je crois qu'elle a même co-signé ou signé une chanson ce que préfèrent les hommes.
Ah, vraiment, ouais.
Ouais, c'est elle qui a signé cette chanson-là, c'est elle qui la chante dans le film.
C'est drôle. Mais Travolta la compare à ces grandes actrices de l'âge d'or d'Hollywood, avec sa sensualité, sa volupté. Il parle de Marilyn Monroe, et c'est vrai qu'il y a une époque où toutes les actrices ressemblaient plus à des modèles, et elle ramène cette sensualité d'antan dans le cinéma. Et en 2013, elle fait un de mes films préférés de sa filmographie, où elle prend énormément de risques, et qui est Under the Skin. Vous l'avez vu,
film de Jonathan Glazer.
Exactement, ouais.
Film pas accessible à tout le monde, mais très, oui, très culotté, très intéressant.
Très kubrickien, d'une certaine manière. Ouais. Et elle joue un extraterrestre, elle accepte d'être nue pour le film, mais c'est pas du tout sexuel, elle est pas du tout sexualisée, c'est vraiment une créature d'une autre planète. Ça rappelle également l'homme qui tomba sur la Terre, The Man Who Fell to Earth, tu sais, le film de Nicolas Roeg avec David Bowie. Et elle est... Salut Romain, David Bowie notre vidéaste, est très fan, mais effectivement, c'est un très grand rôle, je trouve, parce qu'elle joue dans une camionnette avec des locaux qui n'étaient pas au courant que c'était Scarlett Johansson, comme elle a les cheveux teints en noir, elle est méconnaissable, et elle joue avec des véritables non-acteurs qui, après, bien sûr, ont signé des formulaires autorisant leur présence à l'écran, mais je trouve que ça donne une espèce de véracité au film qui est tout à fait étonnante, et ces scènes où ces types se font avaler par cette espèce de liquide noir alors qu'ils veulent simplement faire l'amour avec cette femme, on peut pas les en blâmer, je pense que j'aurais été avalé aussi par le liquide noir très vite, mais elle est formidable, elle amène quelque chose, elle amène quelque chose de différent.
Ouais, c'est là qu'elle commence à explorer les rôles hors du commun pour elle.
Ouais.
On a déjà compris à cette époque qu'elle était super dans les rôles comiques, qu'elle avait beaucoup d'humour.
Absolument.
Que Woody Allen soit là ou pas.
Ouais.
Donc là, vraiment, on comprend que Scarlett, elle est multifacette. Elle peut aller dans tous les personnages, dans tous les emplois possibles, imaginez.
Extraordinaire.
Vraiment, qu'elle mérite vraiment les récompenses qu'elle a eues jusqu'à présent.
En 2014, elle retrouve le personnage de la Veuve Noire pour un des meilleurs films de Marvel, sinon le meilleur, qui est Captain America, The Winter Soldier, où effectivement, là, elle est formidable face à Chris Evans. Et je crois que c'est Sébastien Paul, je ne sais plus comment s'appelle le type qui joue Bucky, tu sais, The Winter Soldier.
Tu veux ? Moi, c'est drôle, je ne sais pas comment vous faites, les vrais fans de films de super-héros, pour les différencier, les films.
Ouais.
Pour moi, les films de Iron Man, Scarlett, où il y a Scarlett Johansson ou pas, pour moi, c'est une grande masse.
C'est-à-dire qu'il y en a des bons et des mauvais, c'est facile.
C'est ça, mais je ne sais plus qui est dans quoi. Et...
C'est comme moi, je compare souvent les films de super-héros au western. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de qualités. Il y en a des très mauvais et il y en a des très bons aussi, en fait.
Je ne suis même pas fan de films de super-héros, donc moi, je ne suis absolument pas capable de les distinguer.
Comme Philippe, d'ailleurs.
Moi, tout est pareil.
En 2014, elle fait un film dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Chef, un film également de Jon Favreau, qui la dirigerait dans Iron Man 2, où elle fait, où Jon Favreau fait une espèce de chef qui veut fabriquer l'ultime sandwich cubain. Vous n'avez pas vu ça ?
Non.
C'est très drôle, ou pas ?
Si, c'est une comédie, c'est un film léger, c'est un film pour ce qu'on appelle les foodies. C'est un signal pour les gens qui aiment manger. Il ne faut pas y aller sans avoir mangé, parce que vraiment, ça donne faim comme film, tu vois, c'est...
Ah, ça m'intéresse.
Ouais. Non, j'aime c'est bien. Très bien. Je crois que Jon Favreau s'est rêvé dans le film en petite amie de Scarlett Johansson et de Eva Mendes, je crois. Donc, ça fait partie de ses...
C'est fantastique.
Il s'est pris pour un playboy, voilà, exactement. Mais le film a son charme. Un film en 2014 que je n'ai pas vu, qui est Lucy.
Moi, j'ai vu.
Alors ?
J'ai vu à la sortie.
Vénarde. Ouais, oui. C'est bien ?
J'ai vu à la sortie du film. Ouais. De Luc Besson.
C'est ça.
Écoute, c'est inimaginable ce rôle pour Scarlett, parce que elle est à l'écran tout le temps. Jamais tu as une image où elle n'est pas présente.
Ouais.
Donc, le film tire uniquement sur elle, évidemment. Le scénario, ben, ça vaut ce que ça vaut, parce que bon, elle, Lucie, elle est l'origine de tout l'univers, de tout homme, ouais, de toute chose. C'est la première femme. Et donc, Scarlett suit toute cette évolution-là, parce que bon, elle est contaminée par une chose qui lui, qui lui donne, en fait, cette graine d'extraterrestre, ouais, de Lucie, ouais, et donc elle passe par tous les stades.
Et t'as quoi, elle a accès à 90% de son cerveau,
elle a accès à 90% de son cerveau, donc elle fait des merveilles, ouais, elle conduit des bagnoles comme personne, elle fait des trucs pas possibles,
c'est une espèce de Matrix en
exactement
fait,
mais... c'est, ouais, Matrix en femme, ouais, mais jamais elle se démonte,
ouais,
là-dedans elle est extraordinaire. Le film lui-même, je sais pas, moi je n'aime pas trop.
Ouais.
Voilà, c'est.
Mais elle est toujours bien, effectivement.
Mais elle est, ouais, toujours très très bien, et elle est toujours super investie et très très sincère, parce que le personnage est quand même très hors norme.
Ouais.
Très très hors norme.
Ouais, ouais. Ben, c'est un beau, donc, rôle, peut-être dans un film un peu en deçà, mais que, voilà, je n'ai pas vu. En tous les cas, l'année suivante, 2015, Philippe, elle est dans un mauvais film de super-héros, tiens, du coup, qui s'appelle Avengers Age of Ultron, qui est assez raté également, de Jon Favreau, je crois, mmh, qui est la suite des Avengers. Et elle est en 2016 dans un peu meilleur qui s'appelle Captain America, où elle retrouve la veuve noire, Civil War.
Ouais, mais c'est pareil, je te réponds ce que je disais tout à l'heure, je ne fais pas la différence. Donc
Tu as vu Ave César, Irina?
Oui, j'ai vu Ave César, ouais, oui, oui, des frères Cohen.
Voilà, c'est un film que les gens aiment moins dans leur carrière, mais moi j'aime beaucoup.
Ah, j'adore, moi.
Ouais, moi j'adore.
Clooney joue une fois de plus un abruti, mais je trouve que c'est sa meilleure, dans la trilogie des abrutis qu'il a joué depuis Oh Brother, Where Art Thou, Burn After Reading, dont on a parlé il y a quelques jours, et celui-là, mon préféré, est Hail Caesar, Ave,
ouais,
César.
Ah, il est prodigieux dedans.
Incroyable.
On fait une petite aparté, parce que je te le dis tout de suite, je ne me rappelle pas de Scarlett Johansson dans le film, ni même de sa tenue vestimentaire, mais par contre, je me souviens de Clooney qui m'a fait pleurer de rire.
Il est constamment habillé en centurion.
Voilà, et il est idiot, mais comme c'est pas possible d'être
incroyable.
Idiot.
Il est fantastique aussi.
Scarlett est très belle, comme d'habitude, dedans. Voilà, donc,
elle joue une star d'antan, justement, de l'âge d'or d'Hollywood, et elle est très, très crédible. Elle continue donc le travail sur la voix, aussi bien le chant que Her. Elle fait, dans Jungle Book, elle fait une voix, et aussi dans SpongeBob, et dans Sing et Sing 2, qui sont des cartoons pour les enfants, qui ont beaucoup de succès, et dans lequel elle met... Elle utilise sa voix de façon magnifique. Petit faux pas en 2017 avec Ghost in the Shell. Tu l'as vu celui-là, Irina?
Oui, elle incarne meilleur Matoko Kusanagi.
Voilà, ça c'est le problème. En fait, tu viens de mettre le doigt dessus.
Dans un
c'est qu'elle joue une japonaise.
Je m'inscris en faux. Moi, je ne connais rien de Ghost in the Shell. Je n'ai pas vu le dessin animé. Je ne sais, ouais, pas d'où ça vient.
Ouais.
Par contre, elle, je l'ai trouvée, mais elle a tombé par terre dans ce film.
Ah ouais. Elle a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle joue un personnage asiatique et un petit peu comme Sean Connery dans Rien que pour vous. Non, c'était dans lequel c'était.
On ne vit que deux fois.
On ne vit que deux fois, bien sûr, où Brando joue un asiatique. Elle se retrouve tout d'un coup. Faisant une espèce de yellow face virtuelle, puisque le personnage aurait dû être incarné par une actrice japonaise. Et elle est très critiquée à Hollywood pour ça.
Ouais, c'est un peu idiot.
C'est pas souvent. Hein.
Parce que quand tu connais pas le produit, je me suis pas posé de questions. Et je l'ai trouvée extrêmement, comment dire, extrêmement physique, extrêmement immédiate à l'écran. C'est-à-dire qu'elle avait une présence fracassante dans ce film, je trouve.
Ouais. En 2019, elle fait un autre Avengers qui est Endgame, qui celui-là serait ça, tout simplement le film qui a le plus de succès de tous les temps. Donc énorme, énorme succès qui est plutôt pas mal. Et c'est là où elle commence à avoir des problèmes avec Disney. En particulier, Disney lui promet depuis des années un film solo sur la Veuve Noire, comme ils ont fait avec tous leurs personnages, Thor, Captain America, ils ont tous leur film solo. Ils traînent de la patte pour le faire et finalement, ils lui font son film solo qui est un petit peu bâclé et qui est sous-promu, qui est mal lancé. Et Disney, elle les attaque parce qu'ils essayent de lui voler de l'argent avec le streaming en ne gardant pas le film très longtemps en salle. Et elle gagne 40 millions de dollars dans un procès.
Pas mal, Scarlett. Ouais. Sans parler que c'est l'actrice déjà la mieux payée au monde avec le revenu impressionnant de 40 millions de dollars pour Avengers Infinity War.
C'est ça. Mais ils travaillent toujours ensemble. Disney et Scarlett Johansson, ça n'a pas rompu leur lien. Et en 2023, très récemment, donc elle fait un film que je n'ai pas vu, mais dont les gens disent qu'il est plutôt bien. C'est un film de Wes Anderson qui s'appelle Asteroid City. Vous ne l'avez pas vu encore?
Mais non.
Mais non, ouais. Comment t'as réussi à le voir?
Non, je ne l'ai pas vu, moi. Justement, je disais que je ne l'ai pas vu, mais j'avais envie de le voir parce qu'il est sorti depuis quelques mois déjà. Et Philippe ne l'a pas vu parce que Philippe ne va jamais en salle. Et le dernier film qu'il a vu, c'est
Scarlett Johansson.
Voilà. En plus, il n'aime pas Scarlett Johansson. On est mal barré.
Comment? Comment? C'est pas que je ne l'aime pas, que je n'ai pas vu ses films.
Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle, mm-hmm. elle garde sa, son intimité, sa privacy de façon farouche. Et effectivement, elle n'aime pas du tout les réseaux sociaux. Il y a plusieurs acteurs comme ça qui refusent d'être sur Twitter ou plutôt sur X ou sur d'autres médias.
Tout à fait, voilà. Ouais. Elle n'est pas ça. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas tout ce qui est discours de célébrité, qui remercie Dieu, Jésus, comme ouais. font souvent des stars d'Hollywood.
Cool. Ouais.
Voilà, elle dit que c'est vraiment pas son truc. Elle est complètement... elle a un vice. Elle a un vice qu'elle dit qui la dévore complètement. Ouais. Elle se laisse, par exemple, emporter par son amour pour le fromage.
Wow.
À tel point que rien d'autre ne gouverne sa vie comme ça. Hein. Donc, donc elle
drôle.
Critique les médias et Hollywood pour leurs standards de beauté peu réalistes, par
ouais.
exemple. Elle encourage des femmes à ne pas se conformer à ces standards.
Ouais.
Donc vraiment, c'est une fille qui se dit pas tout à fait libertine, parce que bon, elle est en couple, mais elle affirme de ne pas avoir besoin d'être en couple en permanence, par exemple.
Ouais. Mais elle a vécu en France aussi, non, je crois, à une époque. C'est peut-être là où elle a pris le goût pour le
fromage. Comme elle a vécu, oui, oui, ouais. mais comme elle a vécu avec pas mal de gens,
ouais.
peut-être qu'en France aussi, c'était peut-être avec Romain Duriac quand elle était...
C'est possible, en tous les cas, elle a failli faire la fille au dragon tatou, tu sais, mais Fincher a dit qu'elle était trop sexy pour le rôle.
Ce qui est vrai.
Ouais.
Ouais, trop sexy pour le rôle.
Et à propos de sexy, il y a un scandale à peu près dans ces années-là, en 2013, où il y a des photos d'elle nue qui sortent sur le net, justement, et c'est un hacker qui est entré dans son téléphone ou dans son ordinateur et qui a publié les photos et qui a pris 10 ans de prison.
Ah oui.
Ouais, quand même.
Ouais, parce qu'elle se bagarre. Hein.
Ouais, ouais, elle lâche pas. Ouais.
Elle lâche pas. Hein.
Ouais, il a essayé avec de lui donner du fromage, mais ça n'a pas marché.
Est-ce que tu veux qu'on parle de ses amours?
Bien sûr, allons-y, c'est ta rubrique.
Bah oui, peut-être.
Coquine.
J'aime bien.
Petite
parce que c'est vrai que son magnétisme, le magnétisme de Scarlett, il ne se limite pas qu'aux écrans. Elle fait tourner les têtes de beaucoup de gens.
Ouais.
Parmi eux, Jack Antonoff. Après, elle a partagé un moment avec Jared Leto.
De la pauvre.
Ouais. Voilà, Josh Arnett était son homme pendant 2 ans.
Ouais.
Mais les horaires chargés ont mis fin à leur petit duo. Donc, il y a Ryan Reynolds qui a figuré dans son album de mariage en 2008.
Ouais.
Il y a Sean Penn et Nate Naylor qui ont fait des apparitions, bref.
Hein. Je me rappelle, effectivement.
Voilà, avant que Romain Duriac ne s'installe pour un engagement. Une fille et un mariage. Hein.
Ouais.
Voilà, donc après, c'est Colin Jost qui entre en scène et ensemble, ils ont célébré leur union en 2020. Et donc voilà, après, ils ont eu une petite fille qui s'appelle Cosmo. Donc la vie de Scarlett, la vie amoureuse de Scarlett est très envoûtante. Voilà, aussi bien que sa carrière cinématographique. Si tu veux, je pourrais te proposer de finir ce podcast avec une phrase, quand tu voudras le faire,
ouais,
de Scarlett.
Ça n'est pas encore l'heure, mais bientôt.
Ouais. Ah ouais, non,
tu en
non,
as
ouais.
marre
non, non,
comme,
pas
nos,
du tout.
Comme nos auditeurs.
Non, pas du tout. Voilà, ça sera coupé. Ça sera
pas
coupé.
Sûr, tu ne connais pas l'émission, c'est nouvelle. Et maintenant, si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur Scarlett Johansson, qu'il le dise ou qu'il se taise à tout jamais... Philippe, tu as encore une heure, je pense, en toi.
Oui, oui, je le ferai en privé, peut-être.
Bien, merci mes ciné-buddies pour ce voyage dans la filmo de la grande Scarlett Johansson. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran, avec du pop-corn. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez Kinopod. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
C'était donc Irina Ninova dans L'objectif d'une blonde. Je vous embrasse.
Philippe, c'est bon ?
Mao !
Ça recommence. Excellent. Je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui aimait les femmes. Et maintenant... Ce soir, je serai la plus belle pour aller podcaster. Oh.
Tu chantes bien.
À toi, Irina.
Et j'aimerais terminer ce portrait avec une phrase de Scarlett que j'ai entendue lors d'un de ses interviews et que je partage étant du même corps de métier. Je la comprends très, très bien. Ça me paraît très juste, très sincère et vrai. Elle dit « Je sais à quoi je ressemble au réveil après seulement 3 heures de sommeil. Je me dis parfois que j'ai besoin de me cacher sous un chapeau pour sortir. Et ces jours-là, ça fait vraiment du bien d'entendre que je suis sexy, malgré tout.